Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et comme tous les jours à 13h15 sur Europe 1, Franck Ferrand est prêt à nous entraîner dans l'exploration d'un nouveau chapitre de la grande aventure humaine. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous, vous êtes bien lyrique aujourd'hui.
Écoutez, j'ai envie aujourd'hui.
Il est vrai que notre sujet s'y prête. Je vais vous parler d'un personnage pittoresque, béret sur les oreilles et cigarette au bec, l'homme qui a fait comprendre la préhistoire à nos grands-parents. On l'avait surnommé le pape de la préhistoire, il était mondialement connu à l'époque, l'abbé Breuil.
Et cet abbé Breuil qui est mort il y a eu 50 ans, le 14 août dernier.
Eh oui, le 14 août 1961 disparaissait l'abbé Breuil, il y a donc 50 ans. Deux biographies sortent pour l'occasion, dont celle d'Arnaud Hurel, qui sera avec nous dans ce studio.
Alors c'est le moment ou jamais de demander tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la préhistoire.
Et en attendant, nous allons nous enfoncer dans les grottes des Combarelles, de Fond de Gaume, et puis d'Altamira, de Lascaux bien sûr, dans ces chapelles Sixtines de la nuit des temps.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Au début du siècle dernier, les études sur la préhistoire étaient balbutiantes. On savait relativement peu de choses sur les périodes très reculées, les périodes antérieures aux grandes civilisations antiques. Les grottes décorées et même, pour certains, les objets qu'on sortait régulièrement de terre laissaient la plupart des savants assez perplexes. À cette époque, parmi les amoureux de cette discipline encore au berceau, compte un modeste instituteur, Osési, en Dordogne, son nom Denis Péroni. Le 8 septembre 1901, à quelques semaines encore d'une rentrée qui à cette époque s'effectuait plus tard qu'aujourd'hui, le bon monsieur Péroni, instituteur donc, décide d'aller voir sur place l'endroit où a été découverte une jolie statuette de Vénus préhistorique. C'est une statuette en calcite ambrée, translucide, elle est très belle, il la possède depuis un an. C'est un paysan du coin qui la lui a donnée, connaissant les penchants de l'instituteur pour ce genre de vieillerie. Selon les dires du découvreur, la figurine, il faut vous dire que malheureusement, elle a été décapitée dans l'opération d'extraction, cette figurine aurait surgi de la boue d'une ornière sous les roues d'une lourde charrette. On est sur une route qui est à flanc de coteau près du hameau de Sireuil. D'ailleurs, on appellera cette statuette la demoiselle de Sireuil. Denis Péroni a prévenu ses amis et complices en recherche préhistorique, à savoir le docteur Capitan, qui longtemps a été un médecin de renom et qui désormais est chargé de la préhistoire à l'école d'anthropologie de Paris, et son élève, l'abbé Henri Breuil. L'abbé Henri Breuil a 24 ans à l'époque. Il est doué d'un esprit de synthèse assez incroyable et surtout, il possède aussi un sens aigu du dessin. Sur leur route, les trois amis ont aussi prévenu le jeune Armand Pomarel, qui est lui-même un fouilleur accompli et qui s'intéresse à toutes ces choses et à toutes ces recherches dans cette région, dans la Dordogne. Tout en marchant, voilà donc les quatre passionnés qui échangent des nouvelles. Et Pomarel affirme connaître un endroit rempli de gravures semblables à celle de la grotte de la Moutte. Une grotte qui a été découverte il y a pas mal de temps et qui est bien connue de tout le monde à l'époque. Mais où demandent les autres, où se trouvent ces merveilles? Mais chez nous, répond Pomarel. Et c'est ainsi que les trois préhistoriens seront conduits au vallon des Combarel. Alors, aussitôt arrivés à la ferme des beaux-parents de Pomarel, ils sont conduits à l'étable qui a été installée dans l'entrée de la grotte, si vous voulez. Toute l'entrée a été fermée par un long mur de 9 mètres de long qui sert d'étable et puis le reste de la pièce ainsi créée sert de poulailler. Ils se baissent, nos trois amis, là, pour passer par un goulet assez étroit au fond de l'étable. Ils avancent un peu plus loin et puis là, soudain, c'est l'émerveillement. Les parois sont couvertes de gravures représentant des rennes, des chevaux, des mammouths. Ce sont les premières gravures de Combarel. On trouvera aussi dans un entrelac serré de lignes gravées, on trouvera des bisons, quelques félins et même un rhinocéros. Les trois amis continuent d'avancer jusqu'à un passage encore plus étroit où seul peut se faufiler le jeune abbé Breuil qui est plus fluet que ses compagnons. et c'est pour découvrir un troupeau de petits chevaux noirs, non plus gravés cette fois, mais peints sur la roche. Des peintures vieilles de 15 000 ans et que l'abbé a l'émotion de découvrir, lui le tout premier depuis les artistes du Magdalénien, qui étaient venus laisser ici leur témoignage perdu dans la nuit des temps. L'abbé est le premier à aller voir ces peintures, ces petits chevaux noirs, c'est une émotion extraordinaire pour lui. Le plus étonnant au Combarel, ce ne sont pas les animaux, même si ces animaux nous paraissent très exotiques à de pareilles latitudes, évidemment des rhinocéros en pleine Dordogne. Non, le plus étonnant, c'est tout un ensemble d'une cinquantaine de silhouettes humaines tracées sur les parois. Ça, c'est une découverte exceptionnelle. Pour le jeune abbé Breuil, comme pour ses compagnons du reste, mais avec peut-être plus d'intensité chez lui, il y a là une sorte de révélation. « Hurrah !» écrit-il à un ami le soir même. « Pour une découverte, en voilà une d'envergure, pour Capitan et moi ensemble, hein, puisqu'il était avec le docteur Capitan évidemment à ce moment-là. « Une immense grotte à gravure !» écrit Henri Breuil. « C'est à croire que j'ai rêvé, tombé dessus tout banalement. Comme on trouve un caillou sur la route, c'est à ne pas y croire. Aussi, ce que nous avons trimé hier. J'ai calqué 18 bêtes. Il y en a beaucoup de splendides. Ce sera un énorme pétard dans le monde préhistorique. » Ça, c'est ce qui s'appelle faire preuve d'une certaine lucidité. Cependant, dès le lendemain, tandis que Péroni commence déjà à négocier de son côté le rachat de la grotte, qui assez vite finalement reviendra à l'État, notre abbé doit se résoudre, comme prévu, à reprendre son train. Les vacances sont finies. Il s'en va donc, capitan de son côté, lui du sien. Les conclusions des deux n'en sont pas moins enthousiastes. « Il paraît hors de doute, écrivent-ils, que ces figurations, dont la plus haute antiquité ne saurait être niée, n'ont pu être exécutées que par des artistes reproduisant les animaux qu'ils voyaient. Elles remontent donc à l'époque où vivaient en France le mammouth et le renne. Elles sont donc paléolithiques et très vraisemblablement magdaléniennes. » De son côté, Denis Péroni, l'instituteur, va poursuivre l'exploration locale. Il laisse ses amis repartir et lui, tout galvanisé par la découverte des Combarel, se promène à travers cette campagne qu'il connaît bien, forçant l'entrée de la moindre grotte. Et c'est ainsi que 4 jours, je dis bien 4 jours seulement après la fameuse découverte, il grimpe jusqu'à une sorte de tour de rocaille, il écarte les ronces qui bouchent le passage vers une anfractuosité qui a été fouillée naguère mais superficiellement. Le maître d'école s'y aventure, il trébuche sur des pierres branlantes, il se heurte parfois le crâne à des stalactites et après une cinquantaine de mètres, là où le couloir devient vraiment exigu, il s'aventure, il insiste, il débouche sur une crevasse comme un seuil, j'ai envie de dire un stade à franchir au-delà duquel se déploie la splendeur, comme une fresque immense, aux couleurs encore très vives, une fresque peuplée de tout un bestiaire bien plus spectaculaire encore qu'au Combarel.
Danse, Karl Hoff sur Europe 1, qui sert aussi évidemment d'indicatif à Histoire naturelle.
Denis Péroni, l'instituteur des ESI, est hors de lui, il faut l'imaginer, riant tout seul. Il télégraphie évidemment au docteur Capitan et à l'abbé Breuil. Et ces derniers achèvent en toute hâte une communication sur la grotte des Combarel. Capitan la confie au professeur Moissan pour une lecture à l'académie. Ils reprennent le train, cette fois en direction de la Dordogne. Ils sont à Fondegaume, c'est le nom de la nouvelle grotte, le 21 septembre. Dès sa première visite en compagnie des deux amis, l'abbé dénombre quelques 70 sujets peints à Fondegaume. En fait, il en révélera au total plus de 200. L'étude est publiée par le trio en 1910. Elle dénombrera 80 bisons, 40 chevaux, 23 mammouths, 17 cerfs, 8 bœufs, 4 chèvres, 2 rhinocéros, 2 félins, 1 lion, un ours, ainsi qu'une seule représentation humaine. Sur toutes ces représentations, 136 sont peintes et le reste est gravé. Pour l'abbé Breuil, désormais, c'est une autre vie qui va commencer. Une vie faite de descentes inlassables et délicieuses vers ce monde mystérieux et coloré qui se cache là-bas, au-delà de l'étroit passage. Une lampe, un pliant, du papier, une plume, une sanguine, beaucoup de papier calque, hein, bien entendu. Et puis, dans le silence obscur et mystérieux, par-delà l'épaisseur du temps, ce face-à-face grandiose, muet, ce face-à-face mystique peut-être, avec les plus anciens artistes de l'aventure humaine.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous sommes précisément au cœur du monde mystérieux et coloré des grottes aux côtés de l'abbé Breuil.
Eh oui, alors je cite, Julia, l'irremplaçable Jean-Claude Colin-Simard. Vous savez, c'était un des fondateurs de la Tribune de l'Histoire, notamment. Voilà ce qu'écrivait Colin Simard dans les années 60. « Examinant de près ce bison cerné de noir, comment ne pas entrevoir, animé par les jeux de la flamme vacillante, la main qui l'avait tracée. Cette main s'était approchée du roc, tenant un morceau d'ocre, et la main de l'abbé Breuil s'approchait aussi de la paroi pour y appliquer le papier calque. Ce geste répété plus de 20 000 ans d'intervalle, dans le même milieu, les mêmes conditions d'éclairage où peu s'en fallait, avec, on ne pouvait en douter, la même délicatesse. Ce geste réel et son double fantomatique suscitaient le plus inquiétant des mirages. » À fond de gomme, l'abbé Breuil va œuvrer pendant des années entières. Il va étudier, classifier, catégoriser et surtout comparer ce qui se trouve ici à ce que l'on peut découvrir ailleurs. En 1905, au congrès de Périgueux, il est en mesure de présenter un premier schéma général de l'évolution de l'art pariétal. On verra que, évidemment, ce schéma a été constamment revu depuis, mais c'était une base. Alors dit comme ça, tout pourrait sembler normal, presque facile, mais dites-vous bien que c'est une étude qui, à l'époque d'abord, est très débutante, une étude entièrement privée de date, évidemment, de noms, d'écoles connues ou de courants répertoriés. Là, il faut tout repérer soi-même, il faut tout comprendre au sens le plus fort qu'on peut donner à ce terme, il faut tout réinventer, il convient d'avancer à tâtons dans l'obscurité. C'est une étude hors de tout, les savants diraient tout pont coupé, que rien ne relie à une forme quelconque d'art historique entre les gravures et les peintures de très lointains ancêtres du paléolithique et les plus anciens dessins de nos lointains ancêtres du néolithique, il semble qu'il y ait beaucoup plus qu'un chaînon manquant, il y a un gouffre, il y a là un abîme sans continuité. C'est le summum de l'interrogation pour un esprit positif comme celui de l'abbé Breuil. Ce qui est certain, c'est que les adversaires de la thèse d'un art pariétal au paléolithique viennent de subir une grave défaite. Et au premier rang d'entre eux, je pourrais en citer un certain nombre, mais il faut citer un industriel passionné d'archéologie préhistorique qui était Élie Masséna. Les bêtes, écrit Breuil, toujours au même ami, on en parlera peut-être tout à l'heure, les bêtes sont surtout des bisons très nombreux, puis assez de rennes et de chevaux, mais enfin, mais rares, des mammouths et des antilopes. La stalactite recouvre en maint endroit la peinture qui subsiste au-dessous, plus ou moins visible. Impossible donc de nier l'antiquité de ces merveilleuses figures. Masséna, pends-toi, dit l'abbé Breuil. Vous verrez que nous aurons encore tort avec cette huître-là. L'abbé Breuil, nous dit de son côté Arnaud Hurel dans sa belle biographie, n'est ni l'inventeur de l'art pariétal, ni le premier à esquisser les premiers essais d'explication. En revanche, il va être l'un des principaux promoteurs de son acceptation. Pourquoi parler d'acceptation? Eh bien parce que ce qui est aujourd'hui pour nous une évidence, vous l'avez bien compris maintenant, ça ne l'a pas toujours été. Il a fallu se battre pour faire accepter l'authenticité, la possibilité même d'un art aussi ancien. Et ça c'est toute l'aventure que je vous propose de revivre maintenant.
Thank you.
Un extrait sur Europe 1 de Rhapsody in Blue signé George Gershwin Frank.
Le bleu des profondeurs, non pas maritime cette fois, mais simplement géologique. On entre, on avance avec ces savants du début du XXe siècle dans des grottes jusque-là, sinon inexplorées, en tout cas totalement non répertoriées. Il a fallu une certaine audace à ces chercheurs, à ces découvreurs, Arnaud Hurel, pour s'aventurer aussi loin dans les grottes décorées et pour comprendre surtout que les décors en question étaient aussi anciens. Arnaud Hurel.
Alors je crois que l'audace véritable, c'est d'oser aller contre des paradigmes, s'opposer à la science dominante, en l'espèce, à l'idée que l'évolution de l'homme est linéaire, que l'on est parti du plus frustre pour aller au plus évolué. Le plus évolué, c'est l'homme de la fin du 19e siècle, bien sûr. Donc c'est ça le véritable pari, je crois.
C'est-à-dire que pour un certain nombre de savants qui connaissaient évidemment ces découvertes, qui voyaient ces gravures, qui voyaient les reproductions des peintures, etc., il n'était pas possible que toutes ces œuvres d'art, si je puis dire, avec évidemment les guillemets nécessaires, que ces œuvres d'art remontent au paléolithique supérieur. Ça paraissait vraiment beaucoup trop loin. On ne pensait pas que l'homme ait pu être aussi évolué à des temps aussi reculés.
Je crois que le problème que l'on a maintenant en 2011, c'est que notre imaginaire est peuplé de représentations de la grotte Cosquer, de Lascaux, de Chauvet maintenant.
Évidemment,
puisque
nous
avons même un film en trois dimensions. Mm-hmm. Donc il faut accepter d'imaginer qu'il y a une époque où tout cela était totalement neuf, voire incroyable.
Et c'est pas une époque très lointaine, hein. C'était le début du XXe siècle.
C'était le début du XXe siècle, et pourtant ça faisait presque une trentaine d'années que des découvertes avaient été faites. La plus célèbre d'entre elles a été faite en Espagne, c'est la grotte d'Altamira, donc qui a été présentée dès les années 1879-1880, et c'est un petit peu à cause des Français qu'elle a été oubliée.
C'est-à-dire qu'Altamira, dans un premier temps, on dit mais quelle découverte extraordinaire, puis on a l'impression d'un retour en arrière dans les années 1880, c'est l'école archéologique française qui jette une chape de plomb sur la découverte, en quelque sorte.
Alors il y a effectivement une opposition, on va dire, presque nationale, voire nationaliste en l'espèce. Effectivement, c'est un chercheur français qui s'appelle Édouard Harlé, qui va être chargé de mener une inspection pour l'ensemble de la communauté internationale. Il va revenir de son inspection avec le sentiment que tout cela est trop neuf pour être attribuable à des hommes préhistoriques.
Les mots de Harlé sont très violents, même, on peut dire. À la limite du méprisant, quasiment.
Je crois qu'il dit que ce sont des procédés bien savants pour des préhistoriques. Mais là où cela devient un peu subtil, c'est que son rapport est publié dans une revue qui est assez riche et qui publie des planches en quadrichromie. Et donc on pourrait imaginer que les planches présentant à la grotte d'Altamira nous montreraient ce formidable bestiaire polychrome. Eh bien non, le seul dessin qui est retenu, c'est une petite silhouette d'un animal qu'on a du mal à identifier et qu'on est prêt simplement à attribuer à nos préhistoriques.
Il y a une mauvaise foi atroce et une volonté délibérée d'occultation.
Je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi. J'aurais plutôt tendance à dire qu'il est tout à fait conforme à l'idée dominante. Et l'idée dominante, c'est ce que j'évoquais tout de suite, c'est que l'on ne peut pas imaginer qu'il y a plusieurs milliers d'années, on ait pu composer des représentations aussi complexes et aussi belles.
Alors en tout cas, c'était bien de commencer par ce scandale d'Altamira, parce que ça nous donne tout de suite une idée du climat, du contexte dans lequel vont devoir évoluer tous ceux qui, avec l'abbé Breuil, travaillent à une reconnaissance de l'art pariétal paléolithique.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et nous sommes toujours sur Europe 1 avec Arnaud Hurel, qui est historien, auteur d'une très belle biographie, L'abbé Breuil, un préhistorien dans le siècle, chez CNRS Éditions.
Vous êtes chercheur au département de préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle. Donc pour vous, l'abbé Breuil, c'est un peu un des grands maîtres, une des grandes références?
Alors, je suis au département de préhistoire du muséum, mais je suis une espèce d'incongruité puisque je suis un historien, mais un historien qui a la chance de vivre au milieu de son sujet d'étude, c'est-à-dire en fait des préhistoriens, et je vois cette préhistoire en fabrication au quotidien.
Grande année pour la préhistoire, puisqu'on célèbre le 50e anniversaire de la mort de l'abbé Breuil, et c'est aussi les 100 ans
Le 100e anniversaire de la naissance d'André Leroy Gourand, d'ailleurs une journée va lui être
consacrée. Leroy Gourand, hein, je précise, mais je le redis bien, oui. Henri Leroy Gourand,
oui,
c'est ça, oui.
Qui a pu être considéré comme en rupture avec l'abbé Breuil sur des questions d'art pariétal. Et donc le muséum va lui consacrer le 10 décembre, je crois, une journée d'études.
Alors avant d'entrer dans tous les grands combats, je crois que le mot n'est pas trop fort, de la vie et de la carrière de l'abbé Breuil, quelques mots sur le personnage lui-même. Il était assez spectaculaire, si je puis dire. On le reconnaissait facilement, hein, avec son béret, toujours un peu en arrière, sa soutane. Il avait volontiers la cigarette aux lèvres. Il avait un caractère bien trempé. Il ne reconnaissait pas facilement ses erreurs.
On peut
alors,
le dire.
Je crois que le terme de combat est tout à fait adéquat. C'est un homme de combat. Il ne le fuit pas, au contraire, il le recherche.
Ouais, voilà.
Il va d'ailleurs construire toute sa carrière sur la rupture, sur cette idée d'affrontement. Et effectivement, c'est vraiment le trait dominant de toute sa vie. Parfois, il a tendance un petit peu à faire table rase de toutes les oppositions, de tous les chercheurs qui auraient pu se mettre sur son chemin, et parfois se réjouir à la disparition de tel ou tel.
Je lisais tout à l'heure quelques lignes de Colin Simard qui nous parle de l'extrême délicatesse de l'homme qui fait les relevés sur les parois des grottes préhistoriques. Et en même temps, à côté de cette délicatesse, il y a effectivement un caractère bouillonnant, quelqu'un qui s'impose, qui sait s'imposer, un homme d'action aussi, qui traverse par exemple les deux guerres mondiales, pas du tout les mains dans les poches de sa soutane.
Alors c'est un sujet un petit peu complexe, mais effectivement la Première Guerre mondiale est pour lui le premier obstacle qui se dresse sur sa carrière. Je risque de choquer vos auditeurs en disant cela, mais ce qui est important pour lui, c'est sa science
Bien
et
sûr,
sa carrière.
Quand on a une passion aussi dévorante, ça peut tout à fait se comprendre.
Et donc il va organiser sa vie pendant les 4 ans du conflit de telle façon qu'il puisse continuer à poursuivre ses études. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un petit peu la même chose.
Avec en plus, pendant la Seconde Guerre mondiale, un événement tout à fait majeur dans l'histoire de cet art pariétal, c'est la découverte de la 1940.
C'est un événement majeur, mais vous avez noté, je pense, que Breuil ne s'en est pas du tout occupé de Lascaux en réalité.
Oui, il est venu un peu comme ça, il a fait quelques relevés, quelques remarques, mais c'est vraiment très peu.
Il a fait quelques relevés, effectivement, il a fait une fouille en 1949, je crois, mais surtout il a désigné ceux qui devaient travailler dans cette grotte, enfin ceux qui ont pu accéder quelques semaines dans cette grotte, puisque vous savez que cette grotte n'a jamais été fouillée et que les relevés étaient faits le soir lorsque les visiteurs avaient quitté les lieux.
Il y aurait beaucoup à dire sur Lascaux. Je pense d'ailleurs, je
me tourne vers Julien, mais
on pourrait monter une émission sur Lascaux. Il y aurait tellement en ce moment, notamment, de choses à dire. Bon, je ferme cette parenthèse et pour revenir à l'abbé Breuil, à cette espèce de bouillonnement d'un personnage qui sait et qui aime voyager aussi. Nous l'avons vu faire une excursion en Espagne pour aller se rendre compte sur place des splendeurs d'Altamira, mais il va beaucoup plus loin. Il va travailler vraiment en Afrique du Sud, par exemple.
Alors la logique de son activité scientifique, c'est de tout voir et de tout manipuler. Il veut voir tous les sites, il veut voir tous les gisements, il veut voir toutes les collections, il veut manipuler les pièces et il a une formidable mémoire de l'œil et de la main. Et c'est une espèce d'artisan. Et finalement, c'est ce qui va lui permettre de supplanter toutes les oppositions qui vont pouvoir se dresser sur sa route parce que lui seul a tout vu. Et donc il court et parcourt le monde entier.
Il a une capacité de comparaison, évidemment, et de synthèse, un esprit de synthèse qui est tout à fait extraordinaire, qui apparaît tôt du reste. Hein, chez l'étudiant même qu'il est, on note cette capacité à faire des rapprochements, des mises en perspective, etc. Il a aussi, et on va y venir, je voulais même qu'on vienne à ça, il nous reste un peu de temps pour le faire, une véritable élévation d'esprit. C'est un ami de Teilhard de Chardin qu'il va aller rejoindre du reste là-bas, en Chine, pour travailler sur le fameux synanthrope.
Alors c'est un ami de Teilhard de Chardin, mais
En un mot qui est peut-être Teilhard de Chardin pour tous nos auditeurs, tout le monde ne connaît pas
mais
forcément.
Mais ce sont deux personnalités très différentes. Mmh. Le père Teilhard de Chardin est un jésuite et qui finalement va mener une carrière à la fois de géologue, de paléontologue, mais également, on pourrait dire, de philosophe, et va avoir tendance un petit peu à mélanger tous ces domaines, ce qui va lui causer un certain nombre de soucis avec ses supérieurs de la Compagnie de Jésus. En revanche, Breuil est quelqu'un qui se cantonne dans le domaine de la raison, selon la logique de l'Église, qui est de dire qu'il y a deux domaines de la connaissance, il y a ce qui relève de la foi et ce qui relève de la raison. Et Breuil va se cantonner dans la science pure, contrairement à Teilhard de Chardin. Quant à Teilhard de Chardin, il avait un qualificatif à l'égard de Breuil, il disait que l'abbé Breuil a une philosophie un peu courte. Mais ce sont deux personnalités très différentes.
Alors, il faut savoir quand même que l'abbé Breuil a enseigné tôt à Fribourg dès 1905, ensuite à l'Institut de paléontologie humaine à partir de 1910. Il tient la chaire consacrée à ces questions au Collège de France de 1929 à 1947. Il sera membre de l'Institut en 1938. On se dit quand même pour cet abbé qui a été ordonné en 1901, si je ne m'abuse.
En 1900, à Noël.
1900. Il n'a donc jamais eu de paroisse, il n'a jamais exercé son ministère.
Alors c'est un premier paradoxe, mais le deuxième c'est tout de même que cet homme a construit sa carrière officiellement sur l'enseignement alors qu'il détestait l'enseignement.
Ouais.
Mais comme la préhistoire en France n'était absolument pas reconnue par l'université ni par l'équivalent de notre ministère de la Culture, il fallait bien trouver un financement pour se consacrer entièrement à ses études et le financement est venu en fait de chaires d'enseignement.
On va venir dans un instant sur la position forcément paradoxale d'un chercheur comme celui-là au sein de l'Église catholique, mais ce qui est certain c'est que l'Église l'a au moins laissé tranquille pour faire ses recherches, etc. En revanche, elle ne l'a pas vraiment soutenu, il aurait aimé entrer à l'Académie pontificale, évidemment, ça n'a pas été le cas.
Alors, il y a une attitude qui est parfois ambivalente, c'est-à-dire que l'Église de France laisse Breuil effectivement tranquille, elle lui permet de mener à bien ses études, et en même temps c'est une espèce d'apologétique pour l'Église, puisque ses réussites scientifiques, son entrée au Collège de France, son entrée à l'Institut de France sont autant de publicité pour l'Église et la haute valeur de son clergé.
Je vous assure que quand vous dites publicité, je suis certain que nos auditeurs comprennent mieux qu'apologétique. C'est une publicité pour l'Église, incontestablement. Nous nous retrouvons Arnaud Hurel dans un instant pour évoquer les véritables apports de l'abbé Breuil dans la connaissance de la préhistoire et de l'art pariétal.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Un extrait sur Europe 1 de la bande originale du film La guerre du feu, composé par Philippe Sard, car nous nous intéressons au pape de la préhistoire, l'abbé Breuil, Franck.
L'abbé Breuil, je connais très bien, nous dit Jean-Marc, la magnifique grotte préhistorique de Niaud dans l'Ariège, qui contient en particulier une salle nommée le Salon Noir, présentant une des fresques les plus belles que j'ai jamais vues. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi monsieur l'abbé Breuil s'est permis d'ajouter de sa propre main des symboles appelés claviformes sur certaines des parois de cette grotte? Il s'agit d'un sacrilège reconnu et certifié par certains des guides faisant visiter cette grotte, nous dit Jean-Marc. Écoutez, j'aimerais bien savoir ce que disent exactement ces guides, parce que si l'on peut dire que l'abbé Breuil a passé beaucoup de temps dans le fond des grottes, 700-800 heures, dit-on au total, personne ne l'a jamais vu rien ajouter sur les parois, je vous rassure, et notamment pas des symboles claviformes, dont acte, mais là, il faudrait vérifier cette information, Jean-Marc. Alors, nous sommes en compagnie d'Arnaud Hurel, qui vient d'écrire cette biographie sur l'abbé Breuil, un préhistorien dans le siècle, aux éditions du CNRS Éditions. Nous sommes en ce moment en train de célébrer le 50e anniversaire de la mort de l'abbé Breuil. Et d'ailleurs, samedi dernier, avait lieu au Muséum National d'Histoire Naturelle une sorte de journée consacrée, une sorte de colloque, on peut dire, consacrée à l'abbé Breuil.
Oui, l'idée était de mener une réflexion à la fois de préhistorien et d'historien autour de l'abbé Breuil, réfléchir à une question simple, que nous reste-t-il de l'abbé Breuil, puisque ses successeurs ont eu tendance à le vouer aux hégémonies et à vouloir construire un autre type de préhistoire après sa mort. Et finalement, on se rend compte que c'est un homme qui a fait la césure entre le 19e siècle et le 20e siècle. C'est un homme qui correspond à une époque où rien n'était véritablement organisé dans le domaine de la préhistoire. Et donc, les choses ne sont pas vraiment comparables.
Oui, bien sûr. Comme c'était Saki, le grand humoriste anglais, qui disait que c'est toujours au premier chrétien qu'échoit le plus gros lion. En l'occurrence, lorsqu'on est vraiment dans l'avant-garde, quand on est parmi les premiers chercheurs à explorer une nouvelle discipline, il est normal que parmi beaucoup de travail figure un certain nombre d'erreurs. Et on est revenu sur un certain nombre des classifications ou des datations de l'abbé Breuil. Ça, il faut le dire honnêtement, ce qui est tout à fait naturel, du reste.
De toute façon, l'abbé lui-même ne cherchait pas à établir des datations. Il n'avait d'ailleurs pas les outils, c'était ce qu'on appelle des datations relatives. C'est-à-dire par rapport à d'autres éléments, on estime l'âge de telle ou telle pièce ou de telle ou telle représentation. Donc il faisait avec les outils dont il disposait. Et maintenant que nous connaissons en fait le vainqueur de la course, puisque nous sommes 50 ou 60 ans plus tard, il est facile de contester un certain nombre de conclusions de l'abbé Breuil. Non, là où c'est intéressant, c'est de voir peut-être les oppositions à son époque, beaucoup plus que se dire maintenant l'abbé s'est trompé de quelques milliers d'années.
Oui. Et les oppositions, elles ont été dures. Ont même, pour certaines, été vraiment vindicatives.
Les oppositions étaient dures pour différentes raisons, ne serait-ce que parce qu'il était prêtre et qu'il est arrivé un moment où la marche vers la laïcisation de la société française était forte et que les clans et les camps étaient très marqués. Donc un prêtre qui ne doutait de rien, en tout cas pas de lui-même, qui s'impose dans le milieu des préhistoriens, ne pouvait que faire réagir un milieu qui lui-même était plutôt matérialiste, donc plutôt laïque.
C'est-à-dire que parmi les chercheurs en préhistoire et parmi ceux qui essayaient de faire comprendre jusqu'où pouvaient remonter les traces de l'espèce humaine, figuraient beaucoup de, disons-le clairement, de chercheurs anticléricaux. Et lui se trouvait être prêtre et défendre quasiment les mêmes, enfin emprunter en tout cas les mêmes voies, ce qui était un paradoxe dans sa situation.
Là où ça devient vraiment très paradoxal et ce qui peut nous surprendre nous en 2011, c'est qu'en fait c'est au séminaire que l'abbé Breuil a découvert la préhistoire, ce qui n'est pas négligeable. C'est son professeur de sciences naturelles qui lui a fait découvrir la préhistoire, lui a fait ranger les premières collections de préhistoire. Donc on a un peu tendance à avoir une réflexion un peu schématique sur cette période fin 19e, début 20e, en se disant il y a d'un côté le clergé et de l'autre, si vous me permettez l'expression, les bouffeurs de curés. C'est un peu plus compliqué que cela, ne serait-ce que parce qu'il y a énormément de prêtres qui sont des préhistoriens, qui sont très engagés dans la recherche préhistorique.
Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, les questions sur la datation d'un certain nombre d'œuvres rupestres, hein, de peintures, de gravures, etc., n'est pas close, loin de là. On a parlé de la grotte Chauvet, il y a actuellement un débat international sur la question. Je ne veux pas vous plonger au cœur de la polémique, Arnaud Hurel, mais enfin quand même, il faut en dire un mot. Aujourd'hui encore, on se bat pour savoir de quand, par exemple, datent les fameuses peintures de la grotte Chauvet.
Alors, on se bat, mais en fait, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on développe de nouvelles techniques qui vont permettre de remettre en cause d'autres éléments acquis antérieurement, l'espèce des datations. Ensuite, il y a évidemment une espèce de petit jeu qui peut se dérouler entre deux équipes de recherche, l'une accédant à des sites et l'autre ayant quelques difficultés à y accéder, mais ça a toujours existé. Donc, ces rivalités, elles sont, j'allais dire, propres à l'activité scientifique, et c'est ce qui finalement fait avancer la science. C'est dans la contestation des résultats que l'on avance.
À l'occasion de ce cinquantenaire, Jacques Arnoux publie chez CLD Éditions l'abbé Breuil, le pape de la préhistoire. Je cite quelques phrases. Henri Breuil, dit-il, n'a pas choisi les cavernes et la préhistoire pour s'y dissimuler, mais pour y traquer les origines de l'humanité. À l'époque où il s'y est engagé, la tâche était immense et même titanesque. Elle n'a aujourd'hui encore rien perdu de sa difficulté, ni les propres mots de l'abbé de leur actualité. Et c'est vrai qu'on relit encore très volontiers l'abbé Breuil aujourd'hui. Vous le citez vous-même abondamment, Arnaud Huret.
Ce qui est intéressant avec Breuil, c'est sa quête de l'humanité de l'homme. Derrière une pierre taillée, il y a d'abord pour lui un ouvrier. Derrière une peinture préhistorique, il y a un artiste. Et c'est ce qu'il cherche. Alors évidemment, il a un petit côté abrupt. Il est le porte-parole d'une religion révélée. Et lui, il révèle la science. Donc il affirme haut et fort la vérité avec un V majuscule. Mais ce qui est intéressant chez lui, c'est justement ce que je vous expliquais, c'est-à-dire en fait cette idée qu'il y a un homme derrière la préhistoire.
Et c'est peut-être tout l'humanisme d'une démarche finalement, tout à fait en plus une démarche parfaitement intégrée dans son siècle. On voit en suivant tout le parcours de ce préhistorien dans le siècle, c'est le sous-titre même de votre ouvrage, on voit à quel point ce qui se passait autour de lui était loin de le laisser indifférent, bien entendu. Nous n'avons dit qu'un mot de l'Afrique du Sud, de la Chine, etc., mais vous expliquez évidemment ce qu'il y faisait, le travail, l'apport de l'abbé Breuil, tout ça est passionnant. Arnaud Hurel, l'abbé Breuil, un préhistorien dans le siècle, c'est donc aux éditions du CNRS. Et puis je citais à l'instant de Jacques Arnoux aux éditions CLD, l'abbé Breuil, le pape de la préhistoire, c'est le surnom qu'on lui a donné et qui lui restera évidemment. Le Vatican ne l'avait pas toujours apprécié, cet abbé Breuil, mais lui est entré dans l'histoire comme un pape.